Gloire à Dieu. Si tu veux le bonheur, oui, nous voulons tous le bonheur. Et j'aimerais vous dire cet après-midi que Dieu, que Jésus-Christ a payé le prix. Que Jésus-Christ a payé le prix pour que nous soyons heureux et bien, et même bien plus. Que nous soyons vraiment comblés, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés. Et c'est ce que j'aimerais lire avec vous dans la parole de Dieu dans Romains chapitre 3, verset 23. Ouvrons ensemble le Saint-Livre, Romains chapitre 3, verset 23, et regardez avec moi ce que Dieu nous dit cet après-midi. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà le message que Dieu veut que nous retenions cet après-midi. Tout est dit dans ce verset. Dans ce verset que nous venons de lire, Dieu nous montre notre état, Dieu nous montre nos erreurs, Dieu nous montre, oui, que nous sommes tous pécheurs, mais il nous montre ce qu'il a fait pour chacun de nous, il nous montre son amour, il nous montre sa grâce, et plus qu'un message qu'il veut que nous retenions, c'est une expérience qu'il veut nous donner de vivre cet après-midi. Et j'aimerais vraiment que l'on puisse saisir cette expérience, qu'on puisse vraiment la comprendre au travers de ce verset que nous avons lu. Nous réalisons que nous sommes tous pécheurs. Et qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu, la désobéissance à ses commandements. Et peut-être que vous en connaissez quelques-uns. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne diras point de faux témoignages. Et nous trouvons ces commandements dans la parole de Dieu. Et la Bible nous montre que nous avons tous failli, tous désobéi à cette sainte loi, à ces commandements divins, ces commandements qui sont parfaits. Les commandements sont bien plus que ces règles que nous pouvons voir, que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. La Bible nous apprend et nous montre que le péché, c'est de rejeter Dieu. Que le péché, c'est de rejeter Jésus-Christ. Que le péché, c'est de rejeter la croix, de rester loin de lui. Hein, c'est ça le péché. Et de par cela, nous réalisons que nous avons tous péché, d'une manière ou d'une autre. La Bible nous le déclare et il est important cet après-midi de l'accepter pour saisir la grâce de Dieu, pour vraiment saisir la restauration que Dieu veut faire dans nos vies, dans nos cœurs, le bonheur pour être comblés. Oui, nous avons tous péchés, et à cause de cela, les conséquences, nous sommes privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa présence. À cause du péché, nous sommes privés de la présence de Dieu. C'est ce qui met une séparation entre Dieu et nous, le péché. Et la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ, comme nous l'avons chanté, si tu veux le bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui comble nos vies, c'est Jésus qui comble nos cœurs, et c'est seulement sa présence qui puisse vraiment nous donner d'être véritablement heureux, de connaître cette véritable joie, cette véritable paix, ce véritable bien-être, dès aujourd'hui, dès maintenant, et c'est ce que Dieu veut pour toi. Parce que la suite de ce verset que nous avons lu nous montre vraiment la grâce de Dieu, sa volonté. Parce que malgré le fait que nous sommes tous pécheurs, tous séparés de lui, la Bible nous dit qu'il a choisi néanmoins de venir jusqu'à nous en Jésus-Christ. Et ce verset nous dit que nous pouvons être justifiés, nous pouvons recevoir de Dieu le pardon de nos péchés. C'est sa grâce, c'est son amour. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Il y a un pléonasme dans cette phrase. Gratuitement, et il nous est parlé de grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Et on voit une répétition dans ce verset, parce que la grâce, on peut pas la mériter. Et Dieu nous montre par là qu'il insiste pour nous donner de comprendre ce qu'il a fait pour nous donner de comprendre son attitude à notre égard. Il insiste, nous pouvons être cet après-midi gratuitement justifiés par sa grâce. Par quel moyen ? Le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la rédemption ? Est-ce que vous savez ce que c'est la rédemption ? Quand on regarde dans le dictionnaire, la définition de la rédemption, c'est le rachat, la libération par le paiement d'une rançon, délivrance de celui qui est en esclavage ou en prison pour dette. Voilà qu'est-ce que la rédemption. En d'autres termes, on peut dire que la rédemption signifie la délivrance par le paiement d'un prix. La délivrance par le paiement d'un prix. Et si pour nous aujourd'hui c'est gratuit, si pour nous aujourd'hui nous pouvons recevoir l'amour de Dieu gratuitement, l'amour qu'il veut déverser dans nos vies, dans nos cœurs, pour que nous soyons comblés, changés, transformés, si pour nous nous pouvons recevoir de Dieu le pardon de nos péchés, nous tous qui sommes là, je le répète, si nous avons, tous péché, la Bible nous le déclare, nous pouvons tous recevoir la grâce de Dieu, sans exception. Et cet après-midi, eh bien, ne te prive pas, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta vie, quelles que soient les souffrances par lesquelles tu as pu passer, les erreurs que tu as pu faire, eh bien, ne te prive pas de la grâce de Dieu, parce qu'encore aujourd'hui, Jésus-Christ est sur le trône de la grâce. La grâce de Dieu, elle est encore pour nous aujourd'hui actuelle. Et Jésus a payé le prix pour cela. Si pour nous aujourd'hui c'est gratuit, il y a eu un prix. Dieu a payé le prix. Et je le redis, Dieu est venu jusqu'à nous. Dieu est venu jusqu'à nous pour nous secourir en la personne de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la grâce de Dieu. Et cet après-midi, c'est ce qu'il y a de plus important. De saisir, oui, la grâce de Dieu pour recevoir le pardon de nos péchés et avoir cette assurance que nous sommes sauvés, que nous avons la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur cette terre. C'est pour cela qu'il est allé jusqu'à la croix. Lui le Saint, lui le Parfait, lui qui n'a commis aucun péché. Lui qui a marché sur cette terre comme un simple homme et qui est venu non pas pour se faire servir, mais la Bible nous dit pour nous servir et nous servir de rançon, Et on retrouve ce dont nous parlions par rapport à la rédemption, le rachat. Jésus-Christ a payé le prix pour racheter nos vies, pour racheter nos âmes. Nous qui étions sous l'emprise du péché, nous qui étions captifs, esclaves du péché, Jésus-Christ a payé le prix pour que nous soyons réellement libres. Pour cela, il a donné sa vie à la croix. Il est mort en sacrifice. Cela nous montre l'immense grâce de Dieu. Le prix de notre vie, la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, cela nous montre, oui, à chacun de nous que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu et que nous sommes précieux. Et tu es précieux, précieuse à ses yeux, à un tel point qu'il est venu lui-même et qu'il a tout donné, qu'il s'est donné entièrement. J'aimerais voir avec vous un passage dans l'Ancien Testament afin d'aller plus loin et de voir justement l'expérience d'une femme qui a littéralement expérimenté ce verset, ce qu'est d'être rachetée. Cette personne, c'est Ruth, et donc on retrouve son expérience dans le livre qui porte son nom dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ruth, chapitre 1er. J'aimerais qu'ensemble on puisse lire ce passage qui nous montre et qui nous parle encore pour nous aujourd'hui, sur ce que Dieu est capable de faire dans la vie et dans le cœur de tous ceux qui veulent accepter sa grâce, de tous ceux qui veulent s'approcher de lui, de tous ceux qui veulent le recevoir. J'aimerais qu'on lise ensemble ce premier chapitre dans le livre de Ruth, chapitre 1er. est écrit « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit du pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers ton peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Voyons que cette histoire se déroule au temps des juges. C'est comme cela que ce chapitre commence, que nous avons lu, du temps des juges. Et du temps des juges, nous pouvons voir ce qui se passe. Et ce n'est pas compliqué parce que le livre des juges est juste avant le livre de Ruth. Et nous pouvons voir un résumé de ce qui explique ce qui se passait au temps des juges, justement dans ce dernier chapitre que nous avons juste avant le livre de Ruth, dans le dernier verset, au chapitre 21, verset 25, il est écrit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je trouve que c'est une description des plus parfaites de ce monde dans lequel nous vivons. Chacun fait ce qui lui semble bon. Et vous savez que de faire ce qui nous semble bon, ça peut amener parfois de bonnes choses dans nos vies, mais parfois ça peut nous faire faire de graves erreurs. Et c'est ce qu'a expérimenté, malheureusement, Élimélec et sa famille. Parce que nous voyons qu'à ce moment-là, quand ils sont partis, à cause de la famine qu'il y avait dans le pays dans lequel ils étaient à Bethléem, et Bethléem signifie la maison du pain, c'était étonnant. Dans ce lieu, il n'y avait plus à manger, il y avait une famine. Un lieu qui s'appelle la maison du pain, où il n'y a plus de pain, c'est quand même étonnant. C'est comme si vous alliez chez un boulanger et qu'il n'y ait plus de pain. C'est pas normal, il y a un problème. Vous êtes d'accord ? Et il y avait un problème, mais au lieu de rester là où Dieu avait voulu que Élimélec et sa famille restent, au lieu de rester dans l'obéissance, au lieu de rester attaché à la parole de Dieu, à ses commandements, à ses promesses, Élimélec, dans l'épreuve, à cause de l'épreuve, à cause de la difficulté, a fait ce qui lui semblait bon. Et il a cherché une solution par lui-même, et il s'est tourné vers un autre pays, dans un autre lieu, où il s'est dit que très certainement, eh bien, il trouverait à manger. Le problème, c'est que dans ce pays, eh bien, c'était un pays qui était contre Dieu. Hein, de par ce qu'il se passait, de par les idoles qu'il y avait dans ce pays, les habitants de ce pays, du pays de Moab, étaient attachés à un dieu qui s'appelait Kemosh, et ce dieu était adoré, c'était une idole, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul véritable dieu, qu'un dieu vivant et vrai. Et les personnes de ce pays étaient attachées à cette idole, et elles adoraient ce dieu par des sacrifices d'enfants. C'est pour vous dire vraiment les choses atroces qui se passaient. Je ne sais pas si on réalise le pays dans lequel Élimélec et sa famille ont décidé d'aller. Hein, un pays très loin de ce que Dieu veut, de ce que l'on peut voir dans sa parole, de ce que Dieu veut pour nous, comme je le disais. Dieu nous a tant aimés. Et ce qu'il veut, ce n'est pas que nous périssions. Hein, ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous fassions périr qui que ce soit. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons remplis de son amour et que cet amour, eh bien, nous le partagions autour de nous. C'est transformer nos vies et nos cœurs par cet amour. Hein, très loin de ce qui se passait dans ce pays, ces sacrifices d'enfants pour cette idole. C'était des choses atroces, des choses terribles, mais c'est là qu'ils ont choisi de fixer leur demeure. Et je ne sais pas où tu habites, pas physiquement, pas l'adresse de ta maison, mais où tu habites spirituellement, où tu as choisi de planter tes demeures. Parce que normalement, ça aurait dû être un passage dans ce pays qu'aurait dû faire Élimélec. Mais nous voyons que, arrivés au pays de Moab, nous avons lu, ils y fixèrent leur demeure. Ils ont choisi de s'y implanter. Et c'est terrible quand on choisit de chercher en dehors de Dieu une solution. Les conséquences sont graves. Les conséquences sont terribles. Ils ont payé cher cette attitude d'aller chercher en dehors de Dieu, en dehors de ce que Dieu voulait pour eux, en dehors de ce que Dieu nous dit dans sa parole. C'est terrible d'avoir cette attitude, encore aujourd'hui. Et vraiment, Dieu veut nous prévenir cet après-midi, afin que nous puissions saisir sa grâce et marcher dans ses voies. Marcher dans une vie, oui, faite d'abondance, non pas de misère, de sécheresse, de famine, malgré les difficultés, les obstacles qu'il peut y avoir. Mais ce qu'il nous faut, c'est vraiment, eh bien, rester dans ce qu'il nous dit. Rester, eh bien, attaché à lui. Chose que n'a pas fait Élimélec, malgré son nom. Parce que Élimélec signifie « mon Dieu est roi ». C'est quand même interpellant, là encore. « Mon Dieu est roi ». Élimélec pouvait confesser que oui, il avait pour Dieu, eh bien, que le Dieu vivant et vrai était son roi, mais en réalité, il faisait ce qui lui semblait bon, il avait fait ce qu'il voulait dans cette situation. Et encore aujourd'hui, on peut voir de telles attitudes qui amènent à la souffrance, qui amènent à faire des erreurs. Oui, certaines personnes peuvent dire « Dieu est mon roi, Jésus-Christ est mon maître », mais finalement faire dans leur vie ce qui leur semble bon, finalement faire dans leur vie leur propre volonté et chercher ailleurs qu'en Dieu, ce qui peut combler leur cœur. Et cela amène toujours à la misère. La Bible nous dit que le péché, on en souffre. On en souffre longtemps. Et cet après-midi, vraiment, prenons garde à ce que Dieu nous dit, afin de ne pas payer les conséquences du péché, parce que dans cette situation, elles ont été vraiment lourdes de conséquences. Nous voyons que juste après, Élimélec et ses deux fils vont mourir vont décéder. Et on imagine à ce moment-là les souffrances terribles qu'il devait y avoir dans le cœur de Naomi, l'épouse d'Elimelech. Hein, la souffrance, la détresse due à la séparation, hein, à ce décès, non seulement de son mari, mais de ses deux fils. Quelle situation terrible. Je ne sais pas si vous avez déjà connu la souffrance d'une, la perte d'un être cher. Et on se doute que ce sont des douleurs profondes. Et dans ce moment-là, eh bien, nous voyons que par la suite, que Naomi va vouloir revenir à Bethléem, parce que justement, elle va entendre que, eh bien, il y a de nouveau du pain dans la maison du pain, qu'il y a de nouveau du pain à Bethléem. Et elle va choisir de vouloir revenir justement. Et elle va dire à ses belles-filles, à Ruth et Orpa, eh « Retournez dans votre pays, vers vos parents. » Je vous le dis en d'autres termes, ce que leur a dit, c'est « Eh bien, remariez-vous, refaites votre vie. » Mais dans ce moment-là, nous avons lu ensemble, nous voyons que malgré les pleurs de la séparation, nous voyons que Orpa va rapidement accepter, va revenir vers son pays, vers sa famille, mais que Ruth, elle, va prendre une décision toute différente, une décision qu'il nous faut vraiment retenir. Nous voyons cette attitude que Ruth a eue au verset 16, quand elle a répondu à Naomi qui lui disait de repartir. Elle lui a dit « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Vraiment, il y avait dans le cœur de Ruth un choix, de choisir le Dieu de Naomi. Elle avait très certainement, parce que plus que d'être attachée à Naomi, nous voyons dans ce passage qu'elle était aussi, qu'elle avait ce choix d'être, de choisir Dieu, de choisir le Dieu de Naomi, qu'elle avait été très certainement interpellée par le Dieu de Naomi, peut-être dans des échanges, dans des partages, quand Naomi très certainement devait lui parler, très certainement qu'il y avait des choses qui avaient marqué le cœur de Ruth. Et nous voyons que Ruth était déterminée, qu'elle était résolue dans son cœur. Vraiment qu'il y avait un choix, un engagement à rester près de Ruth, mais attaché à son Dieu. Et cet après-midi, de la même manière, c'est là la solution, d'avoir cet engagement, d'avoir cette résolution, de choisir d'être attaché à Dieu, attaché à sa parole, attaché à Jésus-Christ. C'est là ce qui amène la transformation, c'est là ce qui amène le changement véritable au fond de nos vies, au fond de nos cœurs, dont nous avons tous besoin. C'est là ce qui amène bien le bonheur, la paix, c'est là ce qui comble nos vies. Quand on a cette résolution d'être attaché à Jésus-Christ. Et donc nous voyons par la suite que Ruth et sa belle-mère, du coup Naomi, vont revenir à Bethléem. Et en revenant à Bethléem, les personnes de Bethléem vont être marquées. Les femmes de Bethléem, nous les voyons interpellées en voyant Naomi. Elles vont se poser la question, est-ce là Naomi ? Très certainement parce que les souffrances de Naomi devaient être tellement profonde, tellement lourde que ça devait être même marquant sur son visage. Et à cause de cela, elles se sont posées cette question, est-ce là Naomi ? Et Naomi leur a répondu, ne m'appelez plus Naomi, parce que Naomi signifie grâce, beauté. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Et Mara signifie amertume. Parce que elle va le dire par la suite, elle était remplie d'amertume. Et je ne sais pas cet après-midi, quoi votre cœur est-il rempli ? Comment vous êtes venu dans ce lieu ? Quel est vraiment le fond de votre cœur ? Je ne le connais pas, mais Dieu le sait, et Dieu le voit, et Dieu veut vous remplir. Mais Dieu veut vous remplir, comme on l'a chanté, de bonheur, oui. Mais Dieu veut vous remplir de paix aussi, de joie. Dieu veut vous donner le repos, vraiment, de vos âmes, une paix profonde, de vous donner de marcher dans cette vie ici-bas, dans cette paix, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les douleurs, hein, malgré les épreuves, malgré les tempêtes, malgré les famines, et quelles qu'elles soient. Seigneur, Jésus-Christ est celui qui veut vous donner vraiment d'être rempli, oui, rempli de sa grâce, rempli de son amour, à l'opposé de ce que expérimentait Naomi à ce moment-là. elle qui pouvait dire qu'elle était pourtant partie dans l'abondance. Hein. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et là aussi, c'est un peu contradictoire, interpellant. Ça nous amène à réfléchir parce qu'il y avait une famine dans le pays, mais elle est quand même partie dans l'abondance. Hein. Quelle était cette abondance ? Il y a de l'abondance quand on se tient près de Dieu. Il y a de l'abondance quand on obéit. Il y a de l'abondance quand on est là où Dieu nous veut, à notre place. Et il nous faut le garder à cœur. Ne pas en douter, ne pas aller chercher en dehors de Dieu, en dehors de ce que Dieu nous dit dans sa parole, ce qui nous intéresserait. Parce que tout se trouve, tout ce dont nous avons besoin se trouve en Dieu. Et c'est ce que vont pouvoir expérimenter hein, quand même par la suite Naomi et Ruth. Parce que nous n'avons pas lu tout ce livre, et je vous encourage vraiment à le faire, mais malgré cette fin de chapitre que nous avons lu, nous voyons que ça se finit enfin, d'une manière un peu négative, triste. Nous voyons en continuant cette lecture vraiment... l'œuvre de Dieu dans la vie de Ruth de Naomi. Nous voyons ce que Dieu a fait pour les restaurer. Parce que, je le redis, elles ont su faire les bons choix. Hein. Naomi a choisi de revenir à Bethléem et Ruth a choisi aussi, a été résolue dans son cœur à suivre et à s'attacher à Dieu. Et par la suite, nous voyons donc comment, en fin de compte, Ruth va rencontrer un parent de la famille de Naomi, un parent proche, qui s'appelait Boaz. Et Boaz signifie « en lui est la force ».« En lui est la force ». Et cet homme était un homme riche, un homme puissant, un homme qui était reconnu à Bethléem, qui avait une position. Et c'est vrai qu'en lui, eh bien, il y avait une force qui... Était visible de par sa situation, sa position, ce qu'il faisait, une force qui se dégageait de lui, mais une force qui ne venait pas de lui. Il y avait une force, oui, qui était en lui parce que cet homme, Boaz, était un homme qui respectait Dieu, qui honorait Dieu, qui était attaché à Dieu. Et c'est ce qu'il nous faut bien saisir, bien comprendre cet après-midi, c'est que la force, elle est en Dieu. La force, elle est en Jésus-Christ. La force pour, avancer ici-bas. Et cette force, Dieu veut nous la communiquer. Dieu veut te la communiquer. Dieu veut te donner de pouvoir, saisir sa grâce dans ta vie pour expérimenter cette transformation, de recevoir tous ses bienfaits. C'est ce que Ruth va pouvoir expérimenter en s'attachant à Boaz. Ruth va s'attacher à Boaz et Boaz va s'attacher à Ruth. Et c'est là que nous retrouvons ce dont je vous parlais au début, cette histoire de rédemption, le rachat. Parce qu'il y avait une loi à l'époque, il y avait une loi qui gouvernait, qui était là dans les familles du peuple d'Israël. Cette loi s'appelait le droit de rachat. C'était une loi qui permettait dans une famille de protéger les membres de la famille, justement quand il y avait un décès, pour pas qu'il y ait de personnes isolées ou qui finissent dans la pauvreté. Et il y avait une loi qui permettait de racheter, en fin de compte, la personne, alors ça peut paraître un terme particulier qui peut nous paraître étonnant, mais c'était conduit, c'était voulu de Dieu hein, pour que, comme je vous le dis, qu'il n'y ait personne qui soit isolé, abandonné. Et donc, les membres d'une famille pouvaient racheter une personne, et en la rachetant, alors il y avait un rite qui était fait à ce moment-là, mais en rachetant la personne, eh bien, la personne qui rachetait héritait des biens de la personne, de ce qui lui restait. Mais en même temps, s'il y avait des personnes qui restaient, eh bien, il y avait ce devoir d'être s'attacher à ces personnes, afin qu'il y ait une descendance. Hein. Et dans cette situation, avec Ruth, c'est ce qu'il va se passer. Boaz va choisir, parce que c'était un choix. La personne, malgré qu'il y avait cette loi sur le droit de rachat dans ces familles, ce n'était pas une obligation. Ils avaient la possibilité, mais ce n'était pas une obligation. Et Boaz va choisir de vouloir racheter Ruth. Et par là même, les biens et l'héritage qui faisait partie de la famille de Naomi. Il va choisir de vouloir racheter Ruth et de la prendre pour épouse, afin qu'elle ne soit plus seule, mais afin par la suite de lui donner une descendance. Et par la suite, c'est ce qui va vraiment transformer sa vie. Et c'est ce qui va tout changer. Elle qui était revenue à Bethléem, les mains vides, qui était dans la souffrance, remplie d'amertume, de douleur, elles vont expérimenter vraiment un changement total, radical, de par cette situation, ce rachat. Et les femmes qui avaient dit justement, en voyant Naomi revenir, en se posant cette question, « Est-ce là Naomi ?» À la fin de ce livre, nous les voyons poser cette question, nous les voyons, pas poser cette question, mais annoncer sur cette situation, les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un rédempteur, d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. » Cet enfant, parce que Ruth va devenir enceinte, et c'est cet enfant dont il est question, « Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que cette fille, que cet fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut Saga. Et nous voyons vraiment un changement complet, radical, de situation, entre le début, ce premier chapitre, et la fin. Et nous voyons comment Dieu va intervenir pour bénir Naomi, pour finalement la consoler, pour la restaurer, pour changer cette situation, complètement. Changer ce mal en bien. Et cette belle histoire nous montre ce que Dieu est capable de faire encore aujourd'hui pour nous, pour toi qui es là cet après-midi. Et c'est ce qu'il nous faut retenir, vraiment, parce que ces choses-là, elles sont pour nous. Ce n'est pas simplement une belle histoire merveilleuse, mais c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et je le redis, Jésus-Christ est celui qui a payé le prix pour cela. Nous pouvons recevoir la délivrance par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, la rédemption qui nous ramène à cette attitude de rachat, parce que Jésus-Christ a payé le prix, c'est la rédemption qui nous amène aussi à réaliser que Jésus-Christ est notre rédempteur, il est celui qui a payé le prix pour que nous soyons sauvés, parce que nous ne pouvons pas payer le prix de nos âmes, nous ne pouvons pas payer le prix pour être sauvés, nous ne pouvons pas payer le prix pour recevoir de Dieu le pardon de nos péchés, mais Dieu l'a fait, Jésus-Christ l'a fait, pour nous, pour toi. Et cet après-midi, reconnais-le, accepte-le, afin qu'il y ait, de la même manière que dans la vie de Naomi et de Ruth, un changement radical, une transformation, parce que ce que le Seigneur veut, c'est toujours la même chose, c'est combler nos vies, combler nos cœurs, nous remplir de sa vie, remplir de sa présence, nous remplir de paix, nous remplir de joie, nous donner ce dont nous avons le plus besoin, le pardon de nos péchés, la vie éternelle, et tout cela nous pouvons le saisir, si nous le voulons cet après-midi. Si nous le voulons, si nous le choisissons, tous ceux qui sont là cet après-midi, qui veulent s'approcher de Dieu. Parce que il y a quand même un prix. Je reviens parce que je pense à un verset. Il y a quand même un prix pour nous donner de réaliser ce à quoi Dieu nous appelle cet après-midi, pour pas que nous passions à côté. Il y a quand même un prix qu'il nous faut payer, en fin de compte. Alors vous allez me dire, mais il se contredit, il ne comprend plus rien. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 9. Vous obtiendrez. Et je ne sais pas pourquoi vous êtes venu cet après-midi, mais je sais vraiment parce que c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole, que Dieu veut que vous obteniez, miséricorde, que vous trouviez grâce, hein, et que vous soyez secourus dans tous vos besoins. C'est vraiment ce que Dieu veut, cet après-midi, que vous obteniez, que vous ne repartiez pas de ce lieu simplement comme vous êtes venu, ou vide, ou rempli d'amertume. Non, ce que Dieu veut, c'est vraiment que vous obteniez. Et nous voyons dans ce verset, il nous est dit aussi, « Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc on voit qu'il y a un prix quand même. Et la foi qui nous donne quand même, parce que c'est pour vous donner de saisir, parce qu'il y a une attitude qui nous revient maintenant, cet après-midi, pour nous donner de saisir. Le Seigneur nous a parlé, Dieu nous a parlé, nous présente ce qu'il veut nous donner. Mais maintenant, la foi dans nos vies, dans nos cœurs, va nous donner de pouvoir saisir ce qu'il met là devant nous. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant, ce pas de foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Mais la foi, c'est gratuit. La foi ne nous coûte rien. Qu'est-ce que ça vous coûte cet après-midi ? Qu'est-ce que ça vous coûte de vous approcher de Dieu ? Qu'est-ce que ça vous coûte par la foi cet après-midi, simplement dans ce moment, de vous tourner vers lui, de lui demander pardon pour tous vos péchés ? Qu'est-ce que ça vous coûte ? Afin de recevoir le salut de vos âmes, mais bien plus. Afin de recevoir son secours ici-bas, dans notre vie déjà, ici-bas de tous les jours, mais jusque dans la vie éternelle. Cet après-midi, ne vous privez pas. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Ne passez pas à côté. J'aimerais qu'on prie pour terminer. Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu vivant. En dehors de toi, c'est le néant. En dehors de toi, il n'y a personne. Nous le savons, tu nous le dis dans ta parole, tu nous dis la vérité. Et la vérité, oui, c'est toi. Et tu es venu sur cette terre, et tu l'as proclamé. Tu es venu et tu as dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et éternel notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es celui qui a payé le prix pour cela. Tu es celui qui a payé le prix à la croix afin que nous puissions nous approcher de toi, afin que nous puissions recevoir tout ce dont nous avons besoin, afin que nous puissions recevoir, oui, ta grâce. Seigneur, nous voulons dans ce moment non pas passer à côté de tout ce dont tu nous parles dans ta parole. Nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus, mais dans ces temps, nous voulons vraiment manifester notre foi et saisir ce que tu mets là devant nous. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour cette bonne nouvelle, merci pour ton amour, merci Seigneur pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu fais. Je te prie Seigneur vraiment d'agir dans ces moments, de Seigneur étendre ta main sur tous ceux qui ont besoin de toi et de sauver, de délivrer, d'éclairer, de convaincre par ton esprit, de guérir. Parce que tu n'as pas changé, tu es toujours le même et tu nous appelles à venir à toi. Merci Père pour ton appel, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour la croix, merci Éternel notre Dieu.